Ça marche pas. Pas vrai ça. Toujours comme ça. Bon, faut que j'y aille. Ouais. Ça fait pas chaud. Ouais, quand même dans l'Antarctique là. Bon, cette saison, on peut pas dire que. Ça soit quand même les tropiques là, vraiment. Bon. Bon, heureusement, les chiens sont pas loin. Je pense qu'ils sont là-bas. En plus, c'est des chiens de course à jante large, donc franchement. Oh les chiens, on se calme les chiens. Non, j'ai dit on se calme. On se calme les chiens. Non, bon, on se calme. On se calme, on se met devant, on y va. Allez, hop. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Je sais pas pourquoi, mais je me dis, tiens, c'est... Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais... ça serait pas Noël, bientôt. Oh, mais dis donc, mais alors faut... Oh, mais j'ai quand même un épisode de l'Inaudible qui m'attend, moi, d'ici là. Bon, allez, hop, les chiens, hop, on se dépêche, allez.
L'augmentation de la reconnaissance qui n'aura pas échappé de la longitudinale, mais implacable. Après avoir lu l'illisible, il est temps d'écouter l'inaudible. Volume 10. Bonjour, je suis Walter Proof. Vous écoutez l'Inaudible, le podcast de l'illisible. Bienvenue dans l'univers de la scripturalité paracognitive pour encore plus de réflexions post-expérimentatoires. Au sommaire de ce volume 10, la deuxième partie de notre grande enquête sur la mort de Marlon Brando, un hommage du professeur Laudet Dan à Apophtegme Anaxagore, la chronique de Lulu, qui a lu aujourd'hui « La prognatitude spéculatoire » de Jacques Edmond de Noyeux-Joël, il faut se la farcir, le Kikadi, un peu de musique et bien sûr quelques inégalables fulgurances. Alors, estrampinez bien vos mirettes, souquez vos bananes et accrochez-vous au pinceau, c'est maintenant que j'enlève l'échelle.
Walter Proof is good for you.
Faut pas me la raconter à moi. Non, je suis pas tombé de la dernière pluie. Et de toute façon, il ne pleut pas. C'est pas à moi en tout cas qu'on va faire croire que Marlon Brando, ex-papa de Superman, est mort d'une embolie pulmonaire à la con. Ou alors, c'est que vous ne me connaissez pas. Ou alors, par où dire. Encore que. Enfin bon, bref. Le docteur Wurlitzer est le médecin qui a autopsié Brando. Son bureau est situé Maryland Avenue, Ouest, au numéro 1054. Si je ne l'ai pas appelé 50 fois, je ne l'ai pas appelé une seule. Et jamais, jamais, vous m'entendez, il n'a daigné me recevoir. Même pas répondre à mes questions. C'est pas louche, ça ? Un peu que c'est louche. Pour moi, le docteur Wurlitzer a quelque chose à cacher.
il a découvert quelque chose lors de l'autopsie et depuis, il se couche. Il se cache, je veux dire. Il refuse de parler. C'est louche. Il faut que je cache ce qu'il sache. Que je sache ce qu'il cache, je veux dire. Mais le docteur Wurlitzer ne veut pas parler à la presse. Alors un privé comme moi, encore moins. Voilà pourquoi j'ai dû employer les grands moyens. Bien sûr, ce n'est pas joli joli ce que j'ai fait. Mais comme je dis toujours, le public a le droit de savoir. Et moi, je dois l'informer, le public. C'est mon boulot, en quelque sorte, de l'informer, le public. Alors voilà, j'ai installé une écoute sur le téléphone du docteur Wurlitzer. Et c'est comme ça que j'ai eu la confirmation. Ce que je soupçonnais était vrai. Brando n'était pas mort d'une infection pulmonaire à la con. Jamais de la vie.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Un document comme ça, c'est de la bombe, non? De quoi faire sauter trois fois la République, au moins. Bon, j'en fais tout de suite une copie. Et je la mets au coffre. Fallait pas chercher Walter, les petits gars. Moi, je vous le dis, on va avoir ce qu'on va avoir. C'est tout vu.
Walter Proof is good for you.
On connaît mal Apophteg Manaxagor, et pourtant sa contribution à la maïeutique contemporaine est immense. Immense autant qu'involontaire. Voilà pourquoi il était urgent de lui rendre hommage. C'est ce que fait pour nous le professeur Lao Tet Tan. Une bonne fois pour toutes, avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, une mise au point. Tout ce que l'on sait aujourd'hui d'Apophteg Manaxagor, on l'a appris grâce au récit de son disciple Gaston Bachelor. Aucune autre trace de l'existence d'Anaxagore ne nous est parvenue à ce jour, par quelque biais que ce soit. À tel point qu'il est même difficile d'affirmer avec certitude qu'il a réellement existé. Seul Bachelor en témoigne, à travers les 22 tomes de ses conversations privées et publiques avec Apophteg Manaxagor, pieusement conservées dans les chambres fortes de la grande bibliothèque rose de Picardie. Mais même sur ce point, la plus grande prudence s'impose. Et nous l'imposerons donc. Car qui peut nous certifier que Gaston Bachelor lui-même a réellement existé ? Après tout, il est notoire que la grande bibliothèque rose de Picardie a été réduite en cendres en 1912, lors du tremblement de terre de Pékin. Bien que les deux événements ne soient pas directement liés. En fait, au moment précis où la terre tremblait en Chine, le moine renégat Taras Poutine mettait le feu au rideau de la loge du concierge de la bibliothèque, détruisant par la même occasion ce haut lieu de la culture mondiale et son inestimable contenu. Mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, et grand bien nous fasse, les 22 tomes des conversations privées et publiques avec Apophteg Manaxagor, seule et unique œuvre jamais publiée par Gaston Bachelor, ont bel et bien péri dans les flammes, et avec eux, la seule et unique preuve de l'existence de leur auteur. Comment pouvons-nous donc être sûrs de l'existence réelle et effective de Gaston Bachelor?
tout simplement grâce à la remarquable et exhaustive étude du professeur Émile Sabor, intitulée « Gaston Bachelor ou les infortunes d'un psychanthrope », publiée en feuilleton dans le journal officiel « Entre les deux guerres mondiales ». Sans cette œuvre magistrale et néanmoins imbitable, nous n'eussions jamais entendu parler de Gaston Bachelor. Nous en serions-nous mieux ou moins bien portés? Pour autant, la question n'est pas là. La question est en fait, le professeur Émile Sabor a-t-il vraiment existé? Croyez-moi si vous voulez, mais rien n'est moins sûr. Car figurez-vous que dans toute la littérature contemporaine, jamais, je dis bien jamais, le professeur Émile Sabor n'est cité. À une seule exception, mais de taille, l'œuvre de Rémy Georges d'I.R.G. Et encore, la citation, pour multiple qu'elle soit, n'est jamais littérale, mais plutôt cryptée. Émile Sabor devient Mille Sabor dans la bouche d'un des personnages récurrents de l'œuvre, une sorte de marin barbu portant un nom de poisson. Un peu comme si l'auteur avait préféré laisser un témoignage codé, une fragile piste pour ces archéologues de la mémoire, ces chercheurs d'or philosophal que sont les historiens de la littérature. Putain que c'est beau! Beau, peut-être, mais finalement bien embarrassant. Car, qui nous dit qu'Hergé a vraiment existé? Hein? Qui nous le dit? Pas moi, en tout cas.
Walter Proof is good for you.
Quel dommage que les prérogatives abrasives et récurrentes qui sous-tendent la vie intérieure dans les sociétés mégalomanes ne soient pas davantage respectées. Je sais bien que ce n'est pas toujours simple, mais quand même, quel dommage. Ah, et si on jouait au qui a dit? Non? Eh ben tant pis, on y joue quand même. Dans le volume 9, je vous avais fait écouter ceci.
This sort of thing has cropped up before.
Eh oui, c'était facile. C'était HAL, l'ordinateur parano de 2001, l'Odyssée de l'espace.
And it has always been due to human error.
Et comme c'était facile, vous avez été nombreux à trouver. Laurent, bien sûr, mais aussi... qui d'autre? Je regarde... un petit coucou de Nicolas, bonjour Nicolas... Pierre Fosco, merci Pierre... le fantôme, le sensible... personne d'autre à trouver, quoi. Bon, tant pis, c'était peut-être trop facile. Alors, on va mettre la barre un petit peu plus haut. Qui a dit...
Oui, prince, je l'envie, je brûle pour tes yeux, je l'aime. Non, point tel que l'on vit les enfers, voilà, j'adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mes fidèles, mes fiers et même un peu farouche.
Voilà, comme d'habitude, si vous avez une idée, il vous suffit de venir sur le site de l'inaudible http://wproof.podemus.com et de poster votre réponse dans les commentaires du billet concernant ce volume 10 ou par courrier à wproof@gmail.com. C'est pas plus compliqué que ça.
It's inaudible.
It's on the inaudible.
Lulu lit. Et quand Lulu l'a lu, alors là, laissez-la là où elle est. Si l'illisible et l'inaudible sont liés à la lecture, alors Lulu l'est à la littérature. Elle lit Lulu, et c'est la lue. Oh là là! Aujourd'hui, Lulu a lu « La prognatitude spéculatoire » de Jacques Edmond de Noyeux-Joël.
Jacques Edmond de Noyeux-Joël est sans doute le meilleur spécialiste mondial pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies, et particulièrement ce qu'on a coutume d'appeler le Web 3.0, sans trop savoir pourquoi. Le sait-il lui-même ? C'est ce que j'ai tenté de deviner en lisant son dernier ouvrage, La prognatitude spéculatoire, publié aux éditions Tête de Con. Jacques Edmond de Noyer-Joël, bonjour.
Bonjour ma poule.
Ça faisait 20 ans que vous n'aviez rien écrit. Rien de bon en tout cas. Alors pourquoi ce nouvel ouvrage ?
Tout d'abord, c'est très gentil de vous préoccuper de mon sort, mais votre analyse n'est pas tout à fait exacte.
Ah bon ?
Ouais, il est faux de prétendre que je n'ai rien écrit depuis 20 ans. J'ai dans mes dossiers personnels, sous la huche à pain, à droite, quelques listes de commissions que Philippe Solers voudrait bien avoir écrites. Et quelques lettres à ma tata de Villeneuve-les-Maglone que Gaston Gallimard rêverait de posséder.
Mais il n'est pas mort, Gallimard ?
Si, justement. C'est depuis sa mort que j'ai systématiquement refusé de publier la moindre ligne.
Alors pourquoi ce revirement ? Que vous a offert Gilbert Tête de Con pour vous convaincre de signer chez lui ?
Tout simplement ce que je ne pouvais espérer trouver ailleurs. Une certitude.
Une certitude ?
Oui, une certitude en or, une certitude 8 cylindres et 12 soupapes en ligne, une certitude en alpaga doublée de fourrure de tigre de Sibérie, bref, une certitude de luxe, grand format, 150 cm de diagonale. Une certitude comme on n'en fait plus.
Oui, oui, je comprends.
Ah oui ? Combien de café dans votre sucre ?
75. Merci. Pour en revenir à votre ouvrage, où trouvez-vous le courage de prédire l'avènement de la progne attitude spéculatoire ? Elle vous semble inévitable ? Ou c'est nous qui sommes trop cons ?
Je serais tenté de vous répondre « et ta sœur », mais je me retiendrai. Voyez-vous, on dit souvent que les prognates sont les plus acharnés à spéculer. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas vraiment vrai non plus. Je dirais que ce que j'appelle la progne attitude, même si je suis le seul à l'appeler ainsi, est la seule manière de survivre dans un secteur marchand où tout ce qui n'est pas militant, on est réduit à faire le pied de grue au bas de l'immeuble de la vie en attendant que le Cerbère de la justice veuille bien accepter de descendre le rejoindre.
Oui, mais pourquoi ?
Pourquoi ? Vous me demandez pourquoi ? Mais comment voudriez-vous que je le sache ?
Oui, bien sûr. Donc pour vous, la progne attitude est la seule réponse cohérente au déclin du web 3.0.
Vous en connaissez une autre ?
Non, mais je ne sors pas souvent, il faut dire.
Et vous avez raison. Le web 3.0 a fait son temps, et c'est rien de le dire. Nous ne sommes plus à l'ère des gratte-papier, ni à celle des gratte-ciel, ni même à celle des gratte-greniers. Quant à celle des gratte-grillades, ne m'en parlez pas, il faut vivre avec son temps. Et même un poil en avance, c'est pas plus mal.
Jacques Edmond de Noyer-Joël, merci.
Y'a pas de quoi, ma poule. Jojo, tu nous remets 82 cafés, 23 calva fraises, tu seras gentil.
Un peu de musique, maintenant, dans l'inaudible. Musique ? De la musique ? Oui, oui, oui. La musique de l'électricité.
C'est inaudible,
c'est sur l'inaudible.
Live Cut Light Switch. Vous savez comment il a fait ça ? Avec des interrupteurs électriques pour allumer la lumière. C'est signé MDSP, autrement dit Rémi Muller, de smartelectronics.com. Retrouvez l'adresse complète sur l'inaudible http://wproof.podenus.com.
C'est sans cesse essentiel de s'associer au sensu sans souci qui s'essouffle et s'essaye à 600 sortes de sessions insignifiantes. Si, si. En octobre, il y avait un sondage sur le site de l'inaudible http://wproof.podenus.com. Oui, ça va, on sait, oui. Un sondage sur une question existentielle, comment trouvez-vous l'inaudible ? Vous avez été 45% à répondre, je ne le trouve pas, ce qui a le mérite d'être clair. 36% l'ont trouvé inaudible, ce qui est rassurant. Et 18% l'ont trouvé pas assez inaudible. Alors j'espère que ceux-là, en tout cas, seront satisfaits aujourd'hui. En tout cas, personne ne l'a trouvé trop inaudible, et ça, ça fait plaisir. Alors merci aux nouveaux venus sur la carte frappeur de l'inaudible, la charmante Lily de Paris et le sémillant Agité du Bousca en Aquitaine et de l'excellent Podnawak, le podcast qui dit, fait, montre et publie n'importe quoi. Un slogan comme on les aime à l'inaudible. Merci à ceux qui ont laissé des commentaires avisés ou des escalopes expérimentales sur le site. Merci aux 2 millions de visiteurs qui sont venus en novembre sur... Quoi ? Pas 2 millions ? Combien ? 2 000 ? Oh, allez, c'est pareil, hein. 2 millions, 2 000, bon, tout ça. Merci en tout cas à ceux qui sont passés nous voir de partout dans le monde, de Pointe-Noire au Congo, de Berlin, Neubiberg et Erkrath en Allemagne, de Thun au Danemark, Thun, tiens, une belle ville, de La Réunion, salut David, de New York et Williamstown aux United States, de Zurich, Dietikon, Sierre, Sanen, Chavan et Untergomerkinden en Suisse-Irlande, de Bucarest en Roumanie, de Brasilia au Brésil, de Québec au Québec, de Leiderdorp en Pays-Bas, de Nodata en Algérie, de Nodata au Maroc, de Nodata en Côte d'Ivoire, de Nodata au Burkina Faso. Tiens, c'est dingue ça, le nombre de bleds qui s'appellent Nodata dans le monde. Voilà, l'inaudible, c'est fini. C'est pas trop tôt, vous me direz. Salut, et à bientôt. Peut-être.
Non, il est tard, il faut dormir, hein. Allons.